7h42 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Le récit et le dessin pendant plus de 2 mois et demi. L'écrivain Yannick Enel et le dessinateur François Bouc ont suivi pour Charlie Hebdo chaque minute du procès des attentats de janvier 2015. 54 jours d'audience, parfois chaotique mais nécessaire, pour tenter de comprendre et de raconter un traumatisme qui dure toujours 5 ans après grâce aux mots et aux dessins. Voici donc deux auteurs qui essayent de raconter un événement hors norme. Ils sont dans le studio. Bonjour à tous les deux, Yannick Enel et François Bouc. Le procès, c'est donc ce livre qui sort aujourd'hui aux éditions Charlie Hebdo, Les Échappés. François Bouc, vous signez donc les dessins que l'on voit, des dessins expressifs et précis. Il y a une longue tradition de dessins de presse en ce qui concerne les procès. Comment vous inscrivez-vous? Qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avant que ne débute ce procès?
Ce que j'ai décidé de faire, c'était d'être le plus respectueux possible. Parce qu'il y a une tradition aussi dans le procès qui est d'aller vers la voie caricaturale. Et je me disais que dans ce procès, il fallait être respectueux de ce que j'allais voir, y compris pour les accusés, parce que bien sûr, on a tendance à charger les accusés déjà graphiquement. Donc, je me disais c'est quelque chose d'important pour moi. L'autre aspect, c'était de me retrouver face à des gens avec des masques, et donc de comment j'allais me débrouiller avec des gens dont je verrais que la moitié du visage. Et alors, très très longtemps, j'ai pesté contre ça. J'étais presque en colère quand on m'a annoncé ça. Et finalement, je me suis dit, mais au fond, mon travail, c'est de parler du corps. C'est-à-dire, dans ma conception du dessin, le fond et la forme, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que quand je travaille la forme, je dis le fond. Et c'est deux choses conjointes, c'est le travail essentiel qui est le mien, de faire sortir en fait par la forme ce qui est contenu à l'intérieur. Alors bien sûr, j'ai à la disposition les regards, j'ai la totalité du corps, mais j'ai aussi les regards. Les regards sont essentiels parce que énormément de choses passent par le regard. Le regard, on pourrait dire, c'est les accents de vérité, sont dans le regard. Le reste, c'est, on pourrait dire, les éléments périphériques qui vont souligner l'intériorité de la personne. Comment elle tient ses mains, comment elle se tient à la barre, comment... Tout ça, c'est des choses extrêmement explicites. Et donc, de ça, je voulais traiter. Et je pense que c'est l'essentiel. Et puis, ce qui est intéressant aussi, pour finir sur ce sujet... C'est que, au fond, dans un tribunal, la place réservée aux dessinateurs est essentielle. Il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de vidéo.
Ils ont d'ailleurs une place géographique en tant que telle. Il y a le coin des dessinateurs.
Exactement. On a une espèce de territoire qui nous est réservé. Un territoire d'ailleurs qui est emprunté par presque personne. Sauf de temps en temps les huissiers qui passent ou les avocats qui ont quelque chose à dire aux procureurs ou aux huissiers. Mais sinon, cet endroit-là, et même Yannick qui est là, hésitait à venir parcourir cet espace. Comme si cet espace était un territoire réservé aux dessinateurs. Et pourquoi réservé aux dessinateurs? Parce que c'est le moyen de témoigner visuellement de ce qui se passe, donc de donner de la crédibilité visuelle à tous les débats.
C'est finalement l'un des seuls lieux, le procès, un tribunal, François Bouc, où il n'y a que des dessins.
Oui, et c'est ça qui est intéressant. Souvent, la photographie, elle est considérée comme étant captatrice, une appropriation parce qu'il y a cette espèce d'objet phallique qui est l'appareil photographique qui est intrusif dans celui qui reçoit. Alors que le dessin est convivial. Le dessin, c'est quelque chose qui se partage avec la personne qui est dessinée. Et c'est deux rapports totalement différents. D'autant aussi que quand vous voyez un personnage arriver, vous le voyez sous différents axes et vous allez le synthétiser. Il y a quelque chose de synthétique dans le dessin. Alors que dans l'aspect photographique, c'est une prise de vue instantanée sur le moment. Donc si la personne elle est suspendue comme ça, elle reste suspendue comme ça.
et les représentations que l'on a des Agusées, je ne sais pas, j'ai sous les yeux par exemple celle de Nézard Michael Pastor Helvétique, on les présentera dans quelques instants, et bien finalement c'est grâce aux dessinateurs qu'on les a en mémoire, qu'on peut se les imaginer, François Boucle.
Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de traduire des gestuelles particulières. Par exemple, Pastor Helvétique, il avait toujours le même type de geste, retourné sur lui-même, et qui était très spécifique.
Il est grand, maigre.
Il
porte un t-shirt, généralement.
Oui, assez mince. Et il y avait ses mains qui retournaient toujours vers lui-même. Comme il voulait s'introspecter en direct devant nous. Il y a d'autres personnes, comme par exemple Risa Pola, qui lui prenait tout l'espace.
L'autre principal accusé du procès.
Lui prenait tout l'espace, des fois il était accoudé.
Lui il est grand, massif, en tout cas c'est comme ça que je me l'imagine, certain.
Il y a des choses très, très intéressantes, par exemple chez lui, tant qu'il avait le masque, il avait un regard extrêmement ardent, avec des sourcils, même un assez beau regard, mais très flamboyant. Et une fois, il a enlevé son masque, et là, d'un seul coup, c'était devenu une espèce de type indifférent, une sorte de beauf, un peu. Et c'était étonnant de voir à quel point le masque mettait en évidence son ardeur intérieure. Et finalement, d'avoir un masque, c'était plutôt bénéfique pour saisir ce qui se passait à l'intérieur des...
Yannick Hennel, vous, l'exercice était différent. Très différent d'ailleurs parce que, en fait, un procès, c'est une multitude d'histoires. Il y a l'histoire des accusés, l'histoire des parties civiles, votre histoire aussi, puisque donc vous travaillez tous les deux pour Charlie Hebdo. Et donc, bien entendu, vous n'avez pas un rapport de neutralité à l'objet. De toute façon, ce serait difficile d'en avoir. Et là aussi, comment l'écrivain décide-t-il de raconter cela, Yannick Hennel?
Alors, je m'étais préparé en lisant les classiques de la chronique judiciaire, si je puis dire, parce que je ne suis pas chroniqueur judiciaire. Je n'avais même jamais mis les pieds dans un tribunal de ma vie. Je crois que c'est aussi ça qui avait décidé Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, de m'y envoyer, et pour avoir un regard neuf, au fond. Enfin. Mais j'ai tout oublié. Dès les premières minutes, j'ai oublié Anna Arendt, j'ai oublié Kessel, j'ai oublié Camus, j'ai oublié toute la bibliothèque. Et j'ai été requis effectivement par une multiplicité de narrations qui faisait que je me suis dit que j'allais devenir très très simplement et de manière très complexe aussi, comme François, le témoin des témoins. Et qu'il allait falloir transmettre tous les jours. En ce qui me concerne, tous les matins très tôt, je me suis levé à 4h du matin pour écrire ce texte pendant 3h jusqu'à 7h. C'était publié aussitôt par Charlie Hebdo. Et l'unique question qui me taraudait, c'était de la métaphysique appliquée. Enfin, c'était où est la vérité? Est-ce que quelqu'un la détient? Et alors il y a eu, ça a commencé avec les accusés. Derrière ces box transparents, masqués, François l'a très bien dit. Moi, finalement, comme François, ça m'a pas déplu qu'ils soient masqués. Il y avait quelque chose de très ardent, de terriblement ardent, parce que c'était à nous de déchiffrer les intentions, de débâillonner cette succession d'hypocrisie et de mensonges. Et voilà, très vite, j'ai assisté, enfin je le raconte comme ça, à un conflit de narration. Alors c'est peut-être le romancier en moi qui a réorchestré ça, mais au fond il y avait ces 11 accusés qui essayaient de nous faire croire qu'ils n'appartenaient qu'à la petite ou à la moyenne, voire à la grande délinquance, c'est-à-dire qu'ils étaient des trafiquants et qu'ils ne connaissaient pas tellement les gens.
Donc chacun a son récit, parce qu'il faut nous les présenter un peu, Yannick Hennel. On a l'habitude de distinguer, mais c'est justement ce que le procès a dû établir, a cherché à établir. En tout cas, parmi eux, il y avait à la fois des complices et des comparses. Comment pourriez-vous nous les présenter aujourd'hui, alors que le procès, donc, première phase, s'est achevé?
Au fond, la chose, c'était d'où viennent les armes, puisqu'il y avait, comme vous savez, disons trois scènes de crime, donc à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, et une scène de crime à Montrouge, dans la rue, où Clarissa Jean-Philippe, la policière, a été assassinée. Et la question de savoir où les Kouachi et où Koulibaly se sont fournis est devenue le centre de ce procès. Alors, il y avait des filières parmi les accusés, la filière belge, notamment la filière ardennaise, et puis des personnes qui étaient accusées, alors, pas tellement de complicité, il y a que Ali Riza Polat qui était accusé de complicité directe, c'est-à-dire que jusqu'au bout.
Il faut nous le présenter, nous dire pourquoi il y avait donc autour de lui l'idée que c'était le principal accusé de ce procès.
Alors au fond, le réseau de preuves entre guillemets, c'est cristallisé, c'est focalisé autour de ce personnage hors du commun et très banal en même temps, très plat, à savoir que jusqu'au dernier moment. C'est quelqu'un qui était en rapport avec Hamedi Koulibaly. Ça a été à la fois son lieutenant et son âme damnée. C'est celui qui était en rapport avec toute la nébuleuse. On peut parler de nébuleuse au fond, puisque vous savez qu'à la fin, ils ont été jugés tous coupables.
voilà. Mais avec des différences notables parmi les peines, Ali Riza Polat a écopé de 30 ans de réclusion pour complicité de crimes terroristes, tandis que d'autres accusés ont eu 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, ce qui donne bien une idée de la gradation dans le quantum de la peine.
C'est-à-dire qu'on voit que toute la société du crime était impliquée à des degrés divers, qu'il se soit agi de porter un sac d'armes quelque part, des armes dont ils se sont obstinés à nous dire qu'elles étaient rouillées, ou alors carrément d'organiser l'achat des véhicules, des gilets pare-balles qu'on a retrouvés à l'Hypercacher. Enfin, vous voyez, tous ces petits degrés divers qui ont l'air parfois de rien, acheter un petit couteau légal, finalement à la fin, ça concourt à créer un acte terroriste.
François Bouc, tous ces gens-là, vous les avez représentés avec des gueules. Donc, on a parlé d'Ali Riza Polat. C'est quelqu'un donc qui est assez massif, qui est très hableur, qui parle de manière désordonnée, qui a dû sans cesse être recadré par le président du tribunal. Et le difficile, c'est de les dessiner fidèlement, sans sombrer, vous l'avez dit, dans la caricature ou dans le pittoresque.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça c'est un des aspects. Alors, Ali Riza Polat, lui, il avait à la fois cette espèce de tragédie qui est celui qui défend sa peau par tous les moyens et qui, par là, devient chaotique. Et donc, il y avait des moments où il réagissait mal à propos, etc. Son avocat de défense était totalement dépassé par lui, débordé par lui, à tel point que c'est pratiquement lui qui a fait sa propre plaidoirie à la fin. Et donc, lui, il était un peu ambivalent. Il y avait à la fois un aspect caricatural, grotesque. D'autres, par contre, étaient beaucoup plus mesurés, beaucoup plus réservés, sur même tragiques aussi, parce que ils avaient la sensation de se retrouver là, pas justifié. Un type comme Willy Prévost, par exemple, qui était quelqu'un qui avait été martyrisé par Koulibaly, se retrouvait là parce que, bien sûr, la pression que lui mettait Koulibaly était telle qu'il était obligé de satisfaire à tous ses désirs. Quand il lui demandait d'aller chercher des gilets tactiques, il y allait. Quand il devait aller lui chercher une moto, il y allait. Enfin, il était vraiment corvéable à merci. Et donc, il se retrouvait là, visiblement, comme quelqu'un de manipulé par Koulibaly. Et malgré tout, il a eu une peine assez forte.
13 ans de réclusion criminelle.
Et oui, bien sûr. Qui, d'une certaine manière aussi, là aussi, si on se s'émarge du point de vue individuel, qui était justifié, parce que bien sûr, tous ces gens-là participaient quand même à des actes terroristes, qu'ils le sachent ou pas, ils y participaient.
Mais alors, on a l'impression, lorsqu'on lit votre récit, lorsqu'on découvre ces dessins, Yannick Hennel et François Bouc, qu'on a affaire à une population qui est extrêmement diverse. Alors, évidemment, personne parmi les accusés ne se présente comme étant un radicalisé, parce qu'ils savent bien que ce serait suicidaire. Mais on a affaire, par exemple, Michel Catineau, un joueur de poker. On a affaire à un patron de bar qui grenouille dans une série de trafic, François Boucou.
Oui, c'est ça, ça. Il y a des personnalités qui sont vraiment du bas banditisme. Hein, ce qui est intéressant de mon point de vue aussi, c'est ce rapport au sacré. C'est-à-dire que ces gens qui ont spéculé sur le sacré en disant que ce sacré-là devait faire mourir des gens qui s'étaient attaqués à ce sacré-là, ont manipulé des gens qui n'avaient aucun rapport au sacré. Et donc des gens qui étaient des désespérés de la vie, des gens qui utilisaient le banditisme pour se donner un petit talent.
Guénie Kenel.
Oui, la question, ça a été de savoir s'ils étaient liés à l'islamisme radical pendant des semaines. Et c'est devenu un peu tabou durant ce procès qui a duré très très longtemps. Enfin,
54 jours.
54 jours, et avec une interruption à cause du Covid pendant un mois. Et la question religieuse, voilà. Et il y a d'autres procès où carrément les accusés revendiquent clairement leur appartenance à une mouvance extrémiste. Là, c'était très caché. Il y avait un côté, je dois dire, pied nickelé aussi, parce que vous parliez de Michel Catineau, c'est un vieux monsieur qui traîne dans les casinos sans cesse et qui s'est retrouvé pris comme ça dans cet imbroglio terrible et sale, et qui était là aussi l'âme damnée, ça marchait par deux en fait, qui était l'âme damnée de Carassoulard, qui détenait un garage en Belgique. Il y a une lectrice, parce que comme on publiait tous les jours, c'était vertigineux, parce qu'on recevait des lettres dans l'après-midi, des mails, et il y a une lectrice qui m'a dit, vous savez, Carassoulard en turc, parce que c'est un kurde cet homme, ça veut dire les eaux noires. À partir de là, j'ai pu réécrire un texte qui indiquait où est-ce que cet homme était en train de nous amener. Il nous amenait dans quelque chose de très infernal, qui relevait de la boue, en fait. Lui-même ne savait pas où il en était. Tous les cas de ces accusés, et je dis pas ça pour les dédouaner, ni pour les, encore moins pour les défendre, mais tous ces cas humains étaient absolument passionnants, parce qu'on a passé, François et moi, et François était encore plus près d'eux, enfin, géographiquement, dans le tribunal, on a passé un temps fou à côté d'eux, en fait.
On en reparle dans une vingtaine de minutes. Ce livre, Yannick Enel, François Bouc, janvier 2015, le procès est publié aux éditions Les Échappés, Charlie Hebdo. On va évoquer la manière dont la parole des victimes ou des survivants, parce que beaucoup de victimes ont souhaité justement être connues et reconnues comme étant des survivants et non pas des victimes, et comment ce procès a été l'occasion de croiser différents discours et différentes formes de tentatives cathartiques pour revenir sur la souffrance causée par l'attentat.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
À 8h21, nous retrouvons nos deux invités, l'écrivain Yannick Enel et le dessinateur François Bouc. Ils font paraître janvier 2015 le procès aux éditions Charlie Hebdo, Les Échappés, le récit donc des 54 jours de ce procès des attentats de janvier 2015. Mais avant d'évoquer ce procès, j'aimerais revenir sur ce qu'évoquait Clara Lecoq-Réal dans le journal. Autrement dit, cette polémique née d'un dessin du dessinateur Xavier Gors, qui était dessinateur au Monde, je dis était parce que il a quitté le Monde. Ce dessin représente deux pingouins, puisque ça c'est le style de Gors, et l'un des deux pingouins dit à l'autre: si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste? C'est donc un dessin qui a suscité de nombreux commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, à la suite de quoi la directrice de la rédaction du Monde, Caroline Monod, a présenté ses excuses et Xavier Gors a donc décidé de quitter le journal Le Monde. Votre réaction, vous qui êtes dessinateur à Charlie Hebdo, notamment François Bouc?
Ah ben, ma réaction, c'est que c'est un bon dessin. Et je ne comprends pas pourquoi il y a une telle offuscation. Dans l'humour, il y a des tas de types d'humour différents. Il y a un humour qui fait de mal à personne. Hein, Il y a quelques dessinateurs comme ça qui font de mal à personne et qui font rigoler doucement. Et il y a un humour, en tout cas celui que je trouve le plus intéressant, qui est l'humour qui permet de prendre conscience et dans un cas comme celui-là, d'avoir la distance avec la tragédie. C'est-à-dire que si on ne veut pas être avalé par la tragédie, il faut suivre les dessinateurs d'humour parce que c'est eux qui vous font avoir la distance suffisante pour ne pas être totalement dans la tragédie, de pouvoir trouver un moyen de s'en séparer.
Alors ce dessin, il a été jugé insultant pour les victimes d'inceste, transphobe, votre point de vue, Yannick Enel.
Je pense que ça en dit long sur là où nous en sommes avec la question de l'ironie. Je pense que l'ironie est devenue incompréhensible. C'est très très grave. Et je ne sais pas, il est possible, je l'ai regardé un peu vite ce dessin, il est possible que ce soit un dessin un peu trop intelligent. Je veux dire par là que, si j'ai bien compris, ça ironisait sur le fait que Finkielkraut avait commencé à dire qu'il fallait demander des précisions quand il y avait un crime de pédophilie. Et lui ironise sur un pingouin qui fait un surcroît de précision. Mais du coup, le dessin est peut-être tellement... Il y a tellement d'étapes pour qu'on comprenne ce dessin que peut-être c'est trop. Mais moi, quand même, à travers... moi, je m'insurge contre le fait qu'on censure finalement. Alors le Monde, ils n'ont pas vraiment censuré.
Ça n'a pas été véritablement une censure, c'est ça l'argument qui a été invoqué. Et d'autre part, Yannick Enel, je vais essayer de trouver des arguments contre le dessin de presse, contre celui-ci. Ça ne va pas être simple, mais j'en ai un qui peut souvent être invoqué. L'ironie, on sait aussi qu'elle peut être maniée par des gens qui... en réalité, pensent très sérieusement ce qu'ils disent. Vous voyez, c'est une façon également très commode dire qu'il y a dans certaines blagues des blagues qui, en réalité, reflètent un fond de vérité.
Bien sûr. Alors.
Mais justement, est-ce qui fait cette distance? Excuse-moi, Yannick.
Non, suite, Yannick.
Ce qui fait cette distance, c'est le trait. On oublie de parler du trait d'un dessinateur. Dans le trait, il y a l'humour. Dans le trait, il y a justement cette capacité à dire « attention les gars, je suis en train de vous faire quelque chose, je ne suis pas d'accord avec la situation des gens qui ont subi l'inceste, mais par rapport à ce qui a été dit, à travers le trait, à travers la situation des personnages, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre qu'on est sur un terrain particulier qui est en dehors de la morale. » Parce qu'en même temps aussi, un bon dessin d'humour doit être amoral, donc hors morale. Et à ce moment-là, si on a compris ça, cette distance, à ce moment-là, on accepte le dessin. Le problème, c'est ce qu'allait dire Yannick, excuse-moi.
Je t'en prie. Non, oui, pour moi, un dessin ou même un texte de littérature ne relève pas de l'information, vous voyez, de la communication, mais de la résistance à tous les autres discours. Ça fait un peu mal. La littérature, ça fait un peu mal. La philosophie aussi. Peut-être le dessin aussi. Ça, c'est blessant. Le problème, c'est l'orchestration maintenant des offensés. Vous voyez, il y a cette phrase de... Parce que cette orchestration de gens qui se sentent offensés et qui vont l'exprimer parce que c'est leur intérêt, moi, me fait penser à cette phrase de Nietzsche qui a dit de manière radicale « Un homme offensé, c'est un homme qui ment ». Je veux dire par là qu'on peut se sentir offensé, mais d'en faire une politique, la politique des offensés, ça devient quelque chose qui relève pour moi du mensonge, en fait. Et alors encore une fois, ce dessin est complexe, et l'ironie demande effectivement à ce qu'on comprenne la contextualisation, vous voyez. Mais sous prétexte que le monde... des réseaux sociaux n'arrivent plus à être intelligents, il faudrait arrêter d'être intelligent.
Non mais, si on prend par exemple dans un texte de littérature, l'exemple le plus classique est l'exemple de Montesquieu avec son texte sur l'esclavage, c'est un texte qui est ironique, mais rien dans le texte n'indique qu'il l'est, il n'y a pas de point d'ironie, et par conséquent, il est justiciable d'une lecture au premier degré qui serait une lecture fautive.
Ben écoutez, on en revient à l'articulation entre ironie et intelligence. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'il faudrait un mode d'emploi?
Il y a Luce qui a fait un mode d'emploi pour lire les dessins dans Charlie Hebdo, ce qui est, à mon avis, un mode d'emploi extrêmement utile.
Oui, alors, mais il faut faire de la pédagogie, c'est vrai. Moi, j'ai été professeur pendant 20 ans, presque 20 ans dans les banlieues dites difficiles. Alors, il y a la pédagogie, mais il y a aussi cette lumière malicieuse de l'ironie qui est entendue quand même, faut pas exagérer. La lumière malicieuse de l'ironie, elle peut être entendue. On fait comme si on ne l'entendait pas.
On fait aussi comme si ce procès, le procès des attentats de janvier 2015, François Bouc, si on revient à l'origine il y a des crobards, à l'origine il y a des dessins, non pas de Mickey, mais des dessins qui ressemblent à ce que les dessinateurs font. Donc là, en l'occurrence, les caricatures de Mahomet. Et François Bouc, lorsque l'on voit la manière dont il va falloir raconter cette histoire aux générations futures, puisque finalement, en écrivant ce livre, en dessinant ces dessins, puisque vous avez assisté aux 54 jours du procès et croqué ceux qui étaient à la fois présumés coupables, présumés innocents, je ne sais pas comment les appeler, ils étaient dans le box des accusés en tout cas, et puis également les victimes, et notamment les victimes de Charlie Hebdo.
Oui, oui. qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? C'est assez complexe de se retrouver dans un endroit comme celui-là. Un des aspects qui m'a semblé être le plus essentiel, c'est de me retrouver avec une espèce de panorama de tout ce que l'humanité peut avoir en elle. C'est-à-dire la pure des cruautés, les tragédies les plus noires, et en même temps aussi des réactions les plus sublimes, des gens qui ont secouru d'autres personnes, des gens qui ont risqué leur vie, des choses héroïques. Sur la durée de ce procès, il y a eu tout un panel de représentations de ce qu'est capable l'être humain, qui était magnifique à voir. On a eu le mensonge, on a eu la dissimulation, on a eu la sournoiserie, on a eu tout. On a aussi le jugement, comment apprécier ces choses-là. Et donc, tout ça, c'était extrêmement passionnant à voir que dans ce creuset, qui est une salle fermée, où on ne voyait même pas le jour, on avait une sorte de synthèse de l'humanité.
Pour moi, Yannick Edel.
Oui, pour moi, la grande nouvelle de ce procès, c'était pas seulement la mise en accusation de l'islamisme radical, c'était d'entendre enfin la parole, ce qu'il y a à l'intérieur de la parole, celle effectivement des victimes qui tout de suite, et c'est Riss et Simon Fieschi de Rescapés de Charlie Hebdo qui l'ont dit, préfèrent qu'on les appelle des survivants, et même Riss dit des innocents, c'est quand même la grande chose, la parole. Et à l'intérieur de ces paroles, il y avait notamment, je pense à Zahri Siboni, l'une des deux caissières de l'hypercachère, qui a été stupéfiante. Moi, je ne m'en remets toujours pas.
Pourquoi ?
Parce que cette femme, avec une grâce infinie, qui lui vient très simplement d'avoir été, je dis très simplement, je n'imagine même pas, d'avoir été située entre les morts et les vivants pendant 4 heures, cette femme est venue nous raconter avec une très grande simplicité qu'elle descendait, vous savez, pour aller dans la chambre froide, pour aller vérifier à la demande de Koulibaly s'il y avait encore des gens, et elle revenait en mentant effrontément à Koulibaly en disant « il n'y a personne », alors qu'elle avait pris soin en bas de voir s'ils étaient bien cachés. Cette femme était comme Perséphone, vous voyez, dans la mythologie grecque. Elle remontait, elle allait de l'enfer, du monde des morts, parce qu'il y avait des cadavres dans les allées de l'hypercachère, à celui des vivants. Et ce qu'elle nous a transmis, et avec François, c'était notre but d'essayer de retransmettre ce que Zahri Siboni nous transmettait. C'était quelque chose qui n'existe presque plus, mais qui est en chacun de nous, je crois, qui est l'indemne. L'indemne, étymologiquement, c'est ce qui est non damné, indemne, ce qui échappe à l'enfer. Et il y a une chose, et je l'ai réappris, là, en écoutant Coco aussi, la dessinatrice Charlie Hebdo, en écoutant Ségolène Vinzon,
Ségolène Vinzon, qui est aussi une journaliste à Charlie Hebdo.
Une journaliste Charlie Hebdo, merveilleuse. C'était la question presque politique, plus forte que l'infamie, plus forte que la barbarie, de l'indemne. C'est-à-dire cette capacité irréductible Il y a quelque chose en chacun de nous qui échappe à toute emprise. Et venir restituer comme ça très longuement, il y a eu 3 semaines où on a entendu les parties civiles, venir restituer ce qu'on peut appeler tout simplement la part d'humanité, ça, je crois que ça nous a fait, non seulement ça nous a fait du bien, mais c'est ça la vérité.
Mais alors, ce qui est compliqué dans ce process, c'est que d'un côté, il y avait ce que vous appelez la part d'humanité, de l'autre, les accusés n'étaient pas des accusés qui assumaient leurs actes, quels qu'aient été ces actes. En tout cas, aucun ne s'estimait partie prenante de cet attentat.
Mais absolument, d'ailleurs, ces attentats. D'ailleurs, et François peut en témoigner, puisqu'il était tout près de cette glace, de ces vitres, de ce box qui semblait parfois s'effriter. Les accusés, pendant les temps de pause, lisaient Charlie Hebdo et s'esclaffaient. Ça nous a quand même étonnés.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'était étonnant,
François Bouc,
parce qu'ils ont découvert pratiquement Charlie Hebdo en étant là. Donc, ils participaient à un procès où, pour une bonne partie, il y avait la raison de Charlie Hebdo, sans savoir que Charlie Hebdo existait, en tout cas comment il existait. Et ça, c'était assez désappointant, parce que on se dit, mais s'ils avaient su ça auparavant, est-ce qu'ils auraient participé à tout cette organisation pour annihiler un moyen d'expression comme celui de Charlie Hebdo.
Et en même temps, oui, non, mais tout ça nous a plongé dans des abîmes d'interrogation. En même temps, je dirais, François, que j'ai eu la sensation que le mal est sans pourquoi, que le mal est sans raison.
Alors, c'est une question qui est une question, à mon avis, cruciale à la fois dans ce procès et dans toutes les histoires de tragédies et de catastrophes, puisque il faut rappeler, Yannick Enel, que vous avez notamment consacré un livre à la Shoah autour de Yann Karski. Oui. Il y a donc toujours la question du pourquoi qui se pose.
Mais oui, c'est je parle du sang pourquoi, c'est Primo Levi qui raconte ça. Dans Si c'est un homme, il y a un nazi, enfin, il a soif et il veut casser une congère, vous voyez, pour sucer un bout de glace comme ça dans son baraquement, et il y a un nazi qui passe et qui lui dit c'est interdit. Et Primo Levi dit mais pourquoi? Et lui dit es ist kein warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Et vous savez, quand on a revu pendant le procès la vidéo de revendication d'Hamidi Coulibaly, moi ce qui m'a frappé, c'était le pur mensonge de sa posture. Ce type-là parlait un arabe exécrable, il savait rien sur le Coran, sa position religieuse était tout à fait falsifiée, et donc le fait qu'il justifiait ses crimes par soi-disant Allah, par ailleurs souillant, pour moi, à mon avis, souillant la religion musulmane, tout ça était grotesque. Et au fond, il cherchait à maquiller par une légitimation intellectuelle, entre guillemets, une pulsion de mort. Et donc quand je dis que le mal est sans pourquoi, c'est pas pour excuser les crimes, bien au contraire. C'est pour dire que ces gens-là, qui se réclament d'un islam qu'ils falsifient totalement, sont de purs tueurs sanguinaires, enfin, pour assouvir une pulsion de mort.
Mais alors, ce qui est terrible, Yannick Enel, c'est qu'il y a aussi la recherche du pourquoi chez les victimes, chez les familles des victimes aussi.
Et ça, c'est la grande question, et c'est ce pourquoi la justice existe, au fond. Pour moi, elle est là, la véritable interrogation. Et j'ai été très frappé de voir que beaucoup de témoins qui venaient à la barre, des parties civiles, des survivants, des familles de morts aussi, restaient après. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas seulement parler une demi-heure. Ils sont restés, pour certains. Je pense à la famille de Yoav Cohen, de l'hypercacher. Ils sont restés tout le procès. C'est une question sans réponse.
Parce que la justice, elle dévoile plutôt le comment. Il y a eu dans les commentaires des familles, des victimes, une forme d'incompréhension en disant voilà, mais s'il s'agit de lutter contre l'oppression, alors nous aussi nous sommes du côté des opprimés.
Mais comme vous le savez, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme est la pierre angulaire de ce massacre aussi. Coulibaly l'a dit très bien à Zahri Siboni, il lui a dit « Vous, là, tous, vous représentez ce que je déteste le plus au monde, vous êtes français et vous êtes juif. » Et donc tuer des journalistes et dessinateurs libres, tuer des policiers, tuer des juifs, c'était ça. Quand je dis il n'y a pas de pourquoi, c'est la haine dont l'antisémitisme est le symptôme.
Il y a aussi un aspect par rapport à Koulibaly notamment, même au frère Kouachi, c'est qu'il y a une valorisation de soi. Ces gens étaient dans une nécessité de se valoriser. Et ils avaient trouvé dans un pseudo-acte héroïque qui était assimilé aussi à la morbidité, ils avaient trouvé le moyen de devenir des héros. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, même dans le procès, c'est que finalement leur nom revenait d'une manière régulière et qu'ils ne méritaient pas que leur nom figure comme si c'était des références à une sorte, parce que même si bien sûr c'était dans le cadre d'un jugement, malgré tout, certaines personnes peuvent voir ça comme des actes héroïques qui pourraient aussi les valoriser eux-mêmes. Parce que, bien sûr, ces gens se sont limités à... Parce qu'il y a une chose aussi qui a été dite par Koulibaly dans l'Hypercacher, c'est ce qu'il détestait le plus chez les Juifs aussi, c'était leur joie de vivre. Et donc, eux, ils ont fait une vocation et à la mort. Pourquoi ils font une vocation à la mort? Parce que ils sont tellement... dépareillés de tous les éléments de vie, alors peut-être pour des raisons, on peut les trouver, hein, la banlieue, des cas de désespérance, hein, d'une certaine manière. Et donc les manipulateurs, ceux qui n'étaient pas à la barre, ou ceux qui se sont produits à la barre, et qui étaient les mentors de ces gens-là, ont manipulé leur espèce de désespérance de la vie pour glorifier une sorte d'héroïsme à la mort. Et donc, ils ne pouvaient pas supporter que des gens puissent faire preuve de joie de vivre. Un peu comme les caricaturistes. Les caricaturistes de Charlie Hebdo, c'est des gens qui font preuve de joie de vivre et qui tournent la vie par tous les bouts pour en trouver le moyen de s'en moquer, de trouver la distance suffisante pour pouvoir en rire. Hein, c'est quand même une particularité de l'esprit humain de pouvoir rire des choses. Et donc s'il y a un dieu quelque part, s'il y a quelque chose, ça nous a donné la capacité de rire. Et cette capacité de rire insupporte ces gens qui sont liés à la morbidité, parce qu'ils en ont fait, et c'est ces manipulateurs là ceux qui étaient les mentors de tous ces gens-là, et qui ont manipulé ces gens parce que justement ils étaient dans cette désespérance et cette fascination. La seule fascination qu'ils pouvaient avoir, c'était celle de la mort.
Absolument.
Yannick Enel.
Oui, il y a eu un moment tout à fait glaçant durant ces audiences. C'est précisément quand nous avons vu surgir de l'écran de visioconférence Peter Sherriff. Peter Sherriff est l'un des donneurs d'ordre des crimes. Et là, on a vu... Parce que les accusés essayaient de nous maintenir dans une narration un peu à la Simenon, un peu de délinquance, un peu foireuse, un peu minable. Et là, on a vu une autre narration surgir, terrifiante, absolument terrifiante. C'était Peter Sherriff, depuis sa cellule, puisqu'il a été arrêté il y a pas longtemps à Djibouti, le donneur d'ordre de Charlie Hebdo, je crois, enfin des Kouachi, semble-t-il.
Oui, parce que Koulibaly s'est réclamé d'une autre fille.
Voilà. Et Peter Sherriff, lui, a manifesté un mépris et un refus de communiquer qui était lié précisément à la négation de ce que François appelle la liberté. Effectivement, là, il nous a dit, en ne nous parlant pas, en récitant, vous savez, la sourate d'appartenance à l'islam, puis en disant que tout ce qu'il avait à dire était religieux, il nous a dit « vous n'existez pas, vous êtes du néant ». Cette liberté doit être détruite. Et donc là, on a senti qu'effectivement, il était impossible. Je dis pas qu'il est impossible de juger le terrorisme, mais il est impossible de dialoguer. Vous voyez. Donc là, c'était vraiment l'arrivée de la mort, comme tu dis, oui, dans le tribunal.
François Bouc, est-ce que ces attentats, l'attentat de Charlie Hebdo, changent votre manière de dessiner?
Non, je pense pas. Non, 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 non. Non, non, ça m'a donné un aperçu particulier de la, je dirais presque de la force du dessin. Et donc, à la fois parce que dessiner dans une enceinte comme celle-là et de témoigner par le dessin, donc en complicité avec Yannick, mais bien sûr ma part était celle de témoigner par le dessin le plus scrupuleusement possible, ça m'a donné une conviction et que le dessin est quelque chose, même si j'en étais un peu convaincu auparavant, mais c'est un des aspects, une des extravagances du dessin que j'avais pas soupçonné aussi fortement. Donc ça c'est quelque chose de... Après, bien entendu, tout le rapport à la caricature, à l'humour, à l'explosion de la vie que peut représenter l'humour, et l'humour par le dessin, ça se renforce, et même, c'est quelque chose, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le dessin qui pose polémique actuellement, ça doit se renforcer. On doit renforcer nos capacités à étendre le territoire de la liberté.
Si les journaux suivent, parce que bien si sûr. À la manière du New York Times, il est décidé de ne plus publier de
caricatures. Il faut avoir du courage. Un journal comme Le Monde, qui se démobilise par rapport... Ils l'ont quand même publié, ce dessin. Donc ça veut dire qu'ils ne regardent pas les dessins qu'ils publient. C'est cette rédaction qui ne regarde pas les dessins qu'ils publient. Et ils doivent... regarder les dessins qu'ils publient, les assumer. Et à Charlie Hebdo, quand un dessin pose polémique, derrière, c'est les avocats de Charlie Hebdo qui se mobilisent. C'est pas le dessinateur qui va justifier de son dessin.
Oui, à la fin de sa vie, Michel Foucault travaillait sur ce qu'il appelait la parésia. La parésia, c'est la parole libre, c'est la parole forte, la parole qui fait un peu de mal, mais qui est dans la démocratie, mais qui fait un peu de mal à tout le monde, qui fait bouger tout le monde. Et le livre qui rend compte de ça, de Michel Foucault, c'est tout à fait passionnant. Je l'avais en tête sans cesse pendant le procès, c'est Le courage de la vérité. Et la vérité, c'est pas confortable. La vérité, c'est quelque chose qui n'a lieu qu'à travers le langage. Ça n'existe pas dans la nature. Les pierres, les arbres, ce sont les humains qui ont construit ça, c'est la véritable politique, la construction de vérité. Et comme l'a dit Lacan, on ne peut jamais la dire toute, elle n'est pas toute. Et moi, ça a été pour moi un apprentissage extraordinaire, ce procès, parce que c'est exactement ce dont parle François, c'est la redécouverte de cette, je vais dire une chose banale, mais je ne crois pas que ce soit banal, de la fragilité de la liberté. Moi, ça m'a donné beaucoup plus de cœur, vous voyez, pour écouter.
Peut-être
les paroles.
Un mot, Yannick Enel, sur le verdict, un verdict très différent. Alors j'ai toujours du mal à savoir si les verdicts sont cléments ou pas. Et il y a ceux qui ont pris 30 ans, Ali Riza Apolat, d'autres, Michel Catineau, qui finalement a transporté des sacs, a œuvré, a été une petite fourmi dans la préparation des attentats, sans savoir, dit-il, qu'il préparait un attentat, a écopé de 5 ans de prison.
La première chose, c'est qu'ils ont tous été jugés coupables. Ça, c'est très important. Je pense que le message que voulait faire passer la Cour... alors, on peut discuter, effectivement, mais le message que la Cour voulait faire passer à la société française et à l'international aussi, c'était les crimes terroristes en France sont punis. Alors, à des degrés divers, effectivement, parce que les trajectoires, on l'a bien vu, sont tout à fait différentes. Ces gens-là ne se connaissaient pas tous, et certains ont été exploités à travers leur participation criminelle. Enfin, mais moi, j'ai trouvé que ce verdict rendait compte d'une position logique de la France aujourd'hui.
Et vous, François Bouc?
Un peu comme Yannick, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et il y a un aspect qui, c'est la portée de nos actes. Quand Catineau balade des sacs sans savoir ce qu'il y a dedans, ça me paraît être totalement absurde. C'est-à-dire que lui, il doit se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Pourquoi ? C'est pourquoi ce sac ? Pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il a été étouffé, donc sa parole... Et sa réflexion a été étouffée par une pseudo-relation de convivialité avec d'autres qui lui dit « Tu peux m'amener ce sac-là à tel endroit ? Oui, tu peux regarder, mais regarde pas si tu... » Mais comment c'est possible qu'un gars qui va balader un sac lourd, parce qu'il y a des armes dedans, n'ouvre pas ce sac pour savoir à quoi ça retourne. Et donc il y a une responsabilité dans l'aveuglement, et un aveuglement qui est considéré par la personne comme étant un acte volontaire. Il s'aveugle volontairement pour pas savoir à quoi ça va servir. Ça peut se punir.
Yannick Hennel, François Bouc, janvier 2015. Le procès, c'est votre livre, publié aux éditions Les Échappés, Charlie Hebdo.